président de la République, l'homme le plus fort de l'État, a envie de nous empêcher de énoncer les choses pour nous empêcher de les dénoncer. C'est-à-dire qu'il choisit les armes, les grenades Gli F4, les LBD, les matraques, les canons à eau, les gaz lacrymogènes. Et en plus, il choisirait les mots. Et donc là, on se dit, enfin je me dis, mais il y a une bataille à livrer, c'est la bataille du récit. C'est la bataille des mots. Et cette phrase-là, je crois qu'elle est absolument centrale dans le basculement qui a opéré depuis avant Macron sur l'idée que on ne pourrait pas discuter de la police, on ne pourrait pas discuter du maintien de l'ordre, on ne pourrait pas discuter de ça, ces mots seraient inacceptables. Non, ils deviennent inacceptables dans un pays qui n'est plus démocratique. Dès lors qu'on est dans une démocratie, tous les mots sont acceptables et on doit pouvoir discuter pied à pied. Discutons de ces questions-là, parce que c'est pas aux seuls policiers d'en discuter, c'est pas aux seuls politiques d'en discuter, c'est policiers, politiques et citoyens.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le journaliste David Dufresne rebondissait ici sur la réponse faite en mars 2019 par Emmanuel Macron à une participante à la Convention citoyenne au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Alors qu'elle l'interpellait sur les violences policières, le président de la République, en bon adepte de la phrase fameuse de Max Weber sur la violence légitime de l'État, s'était insurgé, refusant qu'en démocratie on puisse parler de violences policières. Controverse récurrente depuis des décennies entre ceux qui dénoncent des excès de la part des forces de l'ordre dans les manifestations, mais aussi dans les quartiers dits sensibles ou vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière, et le pouvoir politique, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui durcit les méthodes de maintien de l'ordre en réponse à une violence sociale qui s'accroît. En 2011, l'anthropologue Didier Fassin, professeur de sciences sociales à Princeton, aujourd'hui titulaire d'une chaire au Collège de France, publiait un gros essai intitulé « La force de l'ordre », après 18 mois passés en immersion auprès des policiers d'une banlieue parisienne. On y lisait, sans surprise, l'ennui et la désespérance de flics confrontés au manque de moyens chroniques et aux fluctuations opportunistes du discours politique. On y retrouvait les rodéos des jeunes de banlieue, entre provocations et représailles, et un discours raciste qui gagnait du terrain de part et d'autre. Mais aussi la lassitude d'une hiérarchie, parfois très consciente de l'illégalité de certaines pratiques, coincée entre les demandes de résultats du ministère et la puissance des syndicats. 4 ans plus tard, après des mois d'affrontements en 2019, la police est toujours au cœur d'une protestation citoyenne qui ne retombe pas. La force de l'ordre reparaît, cette fois-ci sous forme de roman graphique chez Delcourt. C'était l'occasion de poursuivre la conversation avec Didier Fassin. Bonsoir Didier Fassin.
Bonsoir.
Alors c'est assez étrange de trouver la signature d'un professeur au Collège de France sur une bande dessinée. C'est inhabituel. Vous l'avez réalisé avec Frédéric de Bomy et Jacques Rénal. Ça vient de paraître chez Delcourt. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important, j'imagine, de faire paraître, forcément en résumé, la force de l'ordre, votre enquête ethnographique qui date quand même maintenant de 2011. C'est quoi le but ?
Alors, elle date de 2011, ou plus exactement la parution du livre est de 2011. L'enquête est plus ancienne encore, puisqu'elle a été réalisée entre 2005 et 2007, où j'ai passé 15 mois à travailler avec des unités de police et particulièrement avec des brigades anticriminalité. La raison pour laquelle il nous a semblé que une réédition sous une forme complètement différente, celle d'un roman graphique, c'est deux choses. C'est d'abord qu'il, ce dont il est question dans le livre, reste d'une brûlante actualité et peut-être d'une actualité qui n'est pas suffisamment mise en relief malgré tout le discours et le travail qui est fait aujourd'hui par des journalistes, par des citoyens autour de ce que fait la police. pas suffisamment mis en avant parce que il est aujourd'hui beaucoup question, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, du maintien de l'ordre et notamment par rapport à des manifestations. Il est en revanche moins question, et c'est ce dont le livre parle, de l'activité policière plus habituelle dans les quartiers populaires, dans les cités, comme on les appelle souvent. Et donc, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que la transformation d'un livre qui doit faire dans les 400 pages et dont j'espère qu'il est néanmoins lisible parce qu'il essaye de raconter, de décrire ce qui se passe. Mais là, cette transformation en une, ce qu'on pourrait appeler une bande dessinée au fond, avec Frédéric de Bomy et Jacques Rénal, eh bien, peut toucher un public plus large, peut remettre sur la table ces questions que nous avons essayé de traiter ensemble.
Alors, vous le précisiez à l'instant, Didier Fassin, c'est vrai que cette enquête qui s'est située essentiellement entre Clichy-sous-Bois et Villiers-le-Bel, deux cités, deux banlieues d'ailleurs, où il y avait eu des morts de jeunes garçons, Ziad et Bouna pour Clichy-sous-Bois, Mouchine et Laramie pour Villiers-le-Bel, elle est quand même très ancienne. Alors, vous avez fait une petite postface à la fin de cette enquête ethnographique, de cette bande dessinée, pour raconter comment votre enquête, qui était une enquête anthropologique, fondée sur des faits irréfutables, 400 pages, qui était parue en 2011, à l'époque, la presse en avait parlé. On était en pleine campagne présidentielle, je le rappelle. Il y avait eu des réactions des politiques. J'ai envie de vous demander, au fond, en permanence, et on vient de se rendre compte encore avec un énorme dossier sur l'islamisme à l'école, par exemple, ces dossiers, au moment où ils sortent, comme votre enquête sur la police, tout le monde en parle, et puis ça passe dans un tiroir. Personne n'en tire la moindre réflexion prospective, au fond.
Alors, vous avez mentionné le moment chronologique de cette enquête, mais ça n'est pas l'endroit où j'ai travaillé, les deux lieux que vous avez cités. J'ai gardé l'anonymat sur le lieu de la région parisienne où j'ai travaillé en disant simplement que c'était une grande circonscription de sécurité publique et donc de police. Pourquoi ne tient-on pas compte d'ouvrages ou de rapports dont on parle beaucoup au moment où ils sortent? Eh bien, d'une part, je crois quand même que mettre ces questions dans l'espace public change un peu la vision des choses. Lorsque j'ai publié mon livre, il était essentiellement des questions des violences contre la police. Ce livre a contribué avec d'autres interventions, notamment des actions citoyennes qui étaient menées à la même époque, à montrer qu'il y avait aussi, et parfois prioritairement, des déviances policières, qu'il s'agisse d'actes discriminatoires, de pratiques racistes, de violences. Et donc, ça a replacé le débat d'une autre façon. Mais vous avez raison de souligner le fait que, de même qu'un rapport qui a été réalisé par un préfet de la République qui travaillait sur les relations entre la police et ses publics, eh bien, aucune de ces interventions n'a eu véritablement d'effet. On pourrait même dire que aujourd'hui, la police, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans l'épilogue de ce livre, aujourd'hui, la police a d'une part des prérogatives et d'autre part des pratiques qui sont encore plus dures et plus répressives que celles que j'avais pu observer. Et ce qui est tout à fait problématique, c'est que, comme vous l'avez signalé dans le propos introductif que vous avez enregistré, à savoir les paroles de David Dufresne, faisant suite à celles du président de la République, eh bien, il y a un déni de cette réalité. Et je crois que ce déni de réalité participe de ce qu'on peut appeler à ce moment-là une violence d'État. Dès lors que des violences policières, sachant que la police, comme vous l'avez rappelé, a le monopole de l'usage légitime de la force physique, c'est ça la véritable définition, c'est pas de la violence, les policiers ne devraient pas être violents, ils devraient utiliser la force lorsqu'elle est nécessaire, mais lorsque des violences sont aussi manifestes que toutes celles qui ont été filmées et dont le film de David Dufresne rend compte, dès lors que ces violences sont niées par le gouvernement, au plus haut niveau, eh bien, cela veut dire qu'il y a une sorte de consentement et que par conséquent, il est légitime de parler, bien que la formule soit polémique, qu'il est légitime de parler de violence d'État, puisque c'est l'État qui accepte ces pratiques comme n'étant pas violentes, alors que chacun voit qu'elles le sont.
Alors, au cœur de La Force de l'Ordre, votre livre qui ressort aujourd'hui sous forme de roman graphique, Didier Fassin, il y a les rapports de la police que vous avez suivis, notamment des BAC, des brigades anticriminalité, dans ce qu'on appelle les quartiers, en mettant des guillemets. On va écouter justement à l'époque où vous avez commencé votre enquête, une archive tirée d'un reportage d'Olivia Gesbert qui avait été diffusée dans Là-bas si j'y suis en 2004.
Non, on dit pas qu'il faut plus de police. Moi, pour moi, on peut pas parler de ça parce qu'il faut de la police, c'est pas le problème.
Il faut de la police, mais quel genre de police ?
La police, ça doit être une police qui arrête les voleurs, qui arrête les dealers, qui arrête les violeurs et qui font pas, comme il disait Faudel, aller emmerder les petits jeunes dans le bâtiment parce qu'ils sont en train de discuter de football. Parce qu'après, par exemple, un truc tout banal, après une soirée de Ligue des Champions, qu'est-ce que tu fais ? Comme il disait, on peut pas fumer chez nous. On peut pas fumer une cigarette devant nos pères et nos parents. On va pas aller dans la chambre pour fumer une cigarette parce que ça va sentir. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend en bas, on discute en bas. On discute, Paris vient de prendre 2-0, Marseille vient de perdre, on discute, on polémique, on refait le monde. Contrôle d'identité, comment se passe le contrôle d'identité ? Outrage, rébellion. Comment tu veux qu'ils fassent confiance à la police ? Ils ont peur de la police, ils ont peur. La paranoïa, elle est pas de notre côté, elle est de leur côté à eux. Ils ont peur.
De côté ? Non, jamais un flic sympa ?
Non, il n'y a pas de flic sympa, il y a pas. Pour moi, le flic le plus sympa des sympas qui rentre, ils seront complices du silence. Il peut être le plus gentil du monde, il peut être le plus sympa du monde, il rentre dans la complicité du silence. C'est très très rare où il y a un flic qui dénonce les exactions de son commissariat. Ou s'il le fait, il faut voir la répression derrière qu'il subit.
Didier Fassin, on entendait là quelque chose qui se passait donc dans les années 2004-2005, donc quand vous avez travaillé. Mais au fond, cette archive, elle pourrait dater d'hier aussi, parce que lorsque votre livre est sorti, quelques temps après, vous avez participé à l'élaboration d'un gros rapport qui s'appelle « Quelle police pour demain ?», lequel rapport a été instantanément mis au fond d'un tiroir et on n'en a pas parlé. Mais au fond, ces problèmes, ils datent d'il y a très longtemps. Ça s'est passé sous Sarkozy, ça s'est passé sous Hollande, ça remonte même à loin. La suppression de la police, qu'on appelait de proximité, elle a accru ce fossé créé entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers. Et on n'est pas prêt, manifestement, de la rétablir, semble-t-il. Donc, en fait, si les choses n'ont pas changé, on pourrait presque dire que les rapports entre la population, notamment de ces quartiers de banlieue, et les forces de l'ordre, ça s'est accru.
Alors, en effet, il y a un double phénomène qui s'est produit. C'est que d'un côté, les inégalités se sont accrues. Et ça, les études le montrent, en particulier celle de Thomas Piketty. Et donc, au désavantage de ces quartiers populaires, en termes de chômage, en termes de revenus moyens, etc. Et d'autre part, la police a été dotée de plus de moyens, de plus de prérogatives, a été plus encouragée à des pratiques, et ça ne remonte pas effectivement à ce gouvernement, on retrouve ça dès les années 80, et encore on pourrait remonter plus loin. Et l'exemple de outrage et rébellion, qui était cité dans cet extrait, est tout à fait significatif. Il y avait peu d'outrage et rébellion au début des années 80. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup pourquoi ? Parce que il y a d'une part un encouragement du ministère de l'Intérieur depuis la fin des années 80 à sanctionner des réponses des habitants et notamment des jeunes de quartiers populaires, souvent, il faut le dire aussi, de familles immigrées. Il y a un soutien du ministère des policiers en leur demandant de porter plainte. Et deuxièmement, il y a une pratique de certains policiers de provocation qui peut conduire à des réponses de ces jeunes et qui, à ce moment-là, sont traduites en outrage et rébellion. Mais vous prenez n'importe quel commissariat, et celui où j'ai travaillé était de ce point de vue tout à fait révélateur, et aussi bien les policiers que les commissaires savent très bien que un de leurs agents qui a un nombre élevé d'outrages et rébellions contre lui, eh bien, c'est un agent qui est lui-même dangereux dans ses relations avec la population. Et donc, les outrages et rébellions aujourd'hui ne manifestent pas, dans beaucoup de cas, ça peut exister néanmoins, mais dans beaucoup de cas, manifestent moins en tout cas l'agressivité des habitants ou des jeunes plus particulièrement, que l'agressivité des forces de l'ordre. Et justement, c'est un point intéressant parce que ça permet de faire une différence au sein de la police. Tous les policiers n'ont pas ces pratiques. Et moi, j'en ai vu qui refusaient cela, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui, soit eux-mêmes avaient cette agressivité, ces provocations, soit les taisaient pour les raisons que votre interlocuteur donnait, à savoir les sanctions qui sont systématiquement contre ceux qui dénoncent les mauvaises pratiques de la police, c'est-à-dire les violences, le racisme, etc. Et moi, j'ai reçu des lettres de policiers qui me racontaient les discriminations dont ils étaient les victimes dans leur commissariat, parce qu'ils avaient signalé à leurs supérieurs des pratiques qui étaient tout à fait inacceptables à leurs yeux.
D'ailleurs, dans votre livre, paru en 2011, La force de l'ordre, Didier Fassin, et ça a été repris dans le roman graphique qui sort aujourd'hui chez Delcourt, il y avait quelque chose qui était très intéressant pour le lecteur, c'était toutes ces conversations que vous avez eues avec les commissaires, justement, avec les chefs de corps, des gens qui parfois, bien sûr sous couvert de l'anonymat, racontaient que c'était des pratiques qu'ils savaient être franchement en dehors de la légalité, mais qu'il y avait, de la part du ministère, cette pression faire du chiffre. On va écouter le témoignage d'un policier sur cette question. Il date de 2008, c'est Jérôme Sandelars de France Culture qui l'avait recueilli.
Comment vous l'imaginez, la fonction de policier ?
Alors j'ai envie de vous dire, comme un flash, pour arrêter les bandits. Bien sûr, c'était pour arrêter les bandits, mais c'est pour rendre service également à des gens qui en avaient besoin. Des gens qui étaient des victimes, ce qu'on appelait les victimes. Et puis on s'aperçoit qu'en réalité, les victimes, aujourd'hui, on s'en occupe pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de faire du chiffre. Et quel que soit le chiffre, quelle que soit la façon dont on le fait. Si on n'est pas d'accord avec ça, il se passe plein de choses. Il se passe des mutations, des gens qui habitent au nord et qui sont mutés au sud, des gens qui veulent aller dans des groupes pour faire ça, ils sont dans d'autres groupes pour faire le contraire. Et quand vous arrivez à une situation comme ça, qui est inexplicable, il y a des collègues qui s'arrêtent parce qu'ils sont malades. Il y a peut-être même des collègues qui ont une consommation addictive, et il y a aussi des collègues qui arrivent jusqu'à se suicider.
Comment elle s'exerce, cette pression hiérarchique et cette course au résultat ?
Quand ce monsieur-là, ce fameux commissaire, quand il est arrivé, il a tout de suite mis en place... Alors, qu'on l'appelle quota, chiffre ou ce qu'on veut, le résultat est là. C'est qu'il a considéré qu'un policier qui travaillait pendant X temps, il pouvait faire, par exemple, 10 contraventions par jour. Il y avait 350 policiers à Tours. 350 fois 10, ça faisait un chiffre, il fallait l'obtenir. Donc, on a mis la pression sur qui ? Sur les responsables de la hiérarchie intermédiaire, dont je faisais partie. Et on a dit à ces gens-là, à vous de les faire travailler de façon qu'ils arrivent là. Et s'ils n'y arrivent pas, ça sera un petit peu de votre faute. Donc, la pression à tous les étages faisait que, on faisait un petit peu plus. Je pense que si on continue à avoir des gens comme ça à l'intérieur de la police nationale, on va perdre beaucoup de choses. On va perdre ce qui faisait notre force hier de comprendre. Aujourd'hui, on ne demande plus de comprendre, on demande de faire.
Didier Fassin, on sent bien que à l'intérieur même de la police, les policiers pris entre la peur du terrain, les violences réelles dont ils sont victimes, on l'a vu encore récemment à Champigny-sur-Marne, l'attaque d'un commissariat, que cette montée des tensions et de la peur de part et d'autre, ça crée un malaise terrible au sein même de la profession. Ça devrait être une profession comme un pilier de la République. Et on sent bien qu'il y a des failles grandissantes. Où est-ce qu'il faut chercher les responsabilités ? Est-ce que c'est du côté des politiques, au fond, depuis... Alors là, gauche-droite confondue, la façon dont les politiques, depuis des décennies, envisagent le rôle de la police, est-ce que c'est ça qui pose problème ?
Alors je crois effectivement, il suffit de comparer des pays européens, c'est-à-dire avec des situations assez comparables en termes de quartiers populaires, de populations immigrées, etc., pour voir que la police française se détache très clairement et les observateurs étrangers, y compris des forces de l'ordre, le répètent, se détachent par des pratiques plus répressives et également plus discriminantes. Et donc, les politiques sont directement en jeu. Et il y a eu, je crois, quelque chose qui est un basculement qui s'est produit à partir du moment où la police française, premièrement, n'est pas au service de la population, mais elle est au service de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, de façon très concrète. Et il y a eu un basculement qui s'est produit, probablement à la fin des années 80, mais peut-être on pourra en voir des signes plus tôt, où c'est devenu une police au service du gouvernement, et donc d'un gouvernement de droite ou d'un gouvernement de gauche. Et dès lors, elle ne sert plus sa population, mais elle sert un gouvernement avec des jeux qui se dessinent entre les syndicats et le ministre de l'Intérieur. Et je crois que ce que dit ce policier, avec beaucoup de réalisme, c'est la manière dont un ministre a besoin de montrer qu'il fait du chiffre. Eh bien, il va le demander à ses directeurs départementaux, qui vont le demander au commissaire, qui vont le demander aux gardiens de la paix de base. Et faire du chiffre, y compris dans des conditions illégales, et les commissaires disent, bah oui, il y a des pratiques qui sont illégales, comme par exemple des contrôles d'identité lorsqu'il n'y a aucune autre raison que simplement l'apparence de la personne. Eh bien, faire du chiffre, là où j'ai travaillé, et c'est absolument banal, c'est faire soit ce qu'on appelle des ILS, infraction à la législation sur les stupéfiants, soit des ILE, infraction à la législation sur les étrangers. Autrement dit, faire des repérages dans la population de qui on pourrait facilement arrêter, interpeller. Pour les étrangers, évidemment, c'est sur la question de la couleur de peau. Pour les stupéfiants, on va dans les quartiers populaires et absolument pas dans les endroits, par exemple, à la sortie des lycées ou des universités. Et donc, on va, dans les deux cas, viser des populations qui sont les plus modestes et les plus défavorisées. Et comme le signalait ce policier, en plus, la demande qui est faite par le ministre de l'Intérieur et répercutée à tous les échelons, c'est une demande qui est supérieure à ce que faisaient normalement les policiers. Autrement dit, on leur demande de faire plus, et faire plus, eh bien, ça veut dire arrêter non plus des voleurs, comme il le disait, mais des gens qui ont simplement une petite quantité de marijuana sur eux, par exemple, ou qui sont en situation irrégulière, ce que la plupart des policiers ne souhaitent pas faire, parce qu'ils n'ont pas l'impression, là, de régler des problèmes d'ordre public.
Shots, and we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret.
It ain't no secret.
No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin.
41 shots, 41 shots, 41 shots, 41 shots.
Lena gets her son ready for school. She says, on these streets, child rules, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away, and promise mama you'll keep your hands inside. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret.
secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin.
5 Inter.
Nos régimes ont été fondés sur le fait qu'il fallait garantir les libertés, parce que si on ne les garantissait pas, la demande de sécurité était toujours la plus forte et allait toujours l'emporter. C'est ce qu'explique Hamilton, c'est ce qu'explique Jefferson, c'est ce que les constituants pensaient au XVIIIe siècle. Les digues par lesquelles nous maintenions ces libertés ont progressivement sauté dans la période récente. Ce qui me frappe personnellement, c'est que, réserve faite de l'horreur des attentats, elles ont sauté alors que nous étions affrontés à des époques bien moins difficiles que celles de nos prédécesseurs. Quand Michel Debré a écrit la Constitution de la Ve République en 1958, il l'a écrit en maintenant les droits de l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, à l'époque où c'était la guerre d'Algérie, où il y avait 3 attentats par jour, et où des soldats français mouraient au combat. Et c'était Michel Debré qui n'était pas le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Ce qui a disparu, au fond, c'est cette idée de la liberté comme valeur première. Vous savez, Maritain dit très très bien quelque chose dans un texte publié pendant la guerre. Il dit, au fond, il faut regarder attentivement ce que disent les hommes politiques. Quand un homme politique vous dit, la liberté, certes, mais la sécurité, oui, ce qu'il vise, c'est la sécurité seulement. Quand un homme politique vous dit, la sécurité, certes, mais la liberté, ça veut dire qu'il préfère la liberté. Depuis 30 ans maintenant, nous entendons, la liberté, oui, mais la sécurité. Ce qui veut dire la sécurité d'abord.
Didier Fassin, on vient d'entendre évidemment la voix reconnaissable entre toutes de François Sureau, l'avocat, spécialiste des libertés publiques. Alors, ça nous amène à prendre au fond un peu de hauteur, à sortir un peu de ce terrain que vous avez décrit en 2011 dans La Force de l'Ordre et que l'on voit aujourd'hui dessiné par Frédéric de Bomy et Jacques Reynal dans ce roman graphique qui vient de sortir chez Delcourt. Au fond, depuis que votre livre est paru en 2011, il y a eu les attentats. Puis il y a eu les gilets jaunes. Donc on sent bien que aujourd'hui toute contestation de la force employée par le gouvernement, par l'intermédiaire de la police, que ce soit dans la répression des manifestations, que ce soit dans le maintien de l'ordre dans les cités, que ce soit évidemment dans la traque du terrorisme, on sent bien que vous, professeurs, nous autres citoyens,
nous n'avons plus beaucoup de poids dans le débat public pour rappeler ce dont parlait François Sureau, c'est-à-dire qu'il y a des libertés à préserver et des lois à respecter. Il faut quand même rappeler que l'usage de la force, c'est une stricte nécessité dans l'emploi de cet usage et c'est une proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans une France où les lois d'exception qui ont été prises après les attentats sont entrées, en fait, dans l'ordre de la loi? Comment fait-on pour maintenir le débat sur c'est quoi une police dans un État démocratique?
La citation de François Sureau que vous avez donnée fait référence aux auteurs de la Constitution des États-Unis. Vous l'aurez remarqué. Et il se trouve que les dernières lignes de la réédition de la Force de l'Ordre en roman graphique avec Frédéric de Bomy et Jacques Rénal, cette dernière phrase, c'est une phrase de Tocqueville, bien connue pour De la démocratie en Amérique, et qui est contemporain de cette création des États-Unis. Et il écrit « Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l'ordre est déjà esclave au fond de son cœur, elle est esclave de son bien-être, et l'homme qui doit l'enchaîner peut paraître. » Et c'est une citation qui est forte, parce qu'on sait bien que Alexis de Tocqueville était tout sauf un révolutionnaire. C'est plutôt aujourd'hui quelqu'un qui est revendiqué par des gens qui sont plutôt à droite, ou plutôt au centre-droit. Et ça nous montre à quel point, effectivement, le décalage, le déplacement s'est fait au cours du temps, comme le remarque François Sureau. Et je dirais que, bien que ça n'ait pas été dans le projet du gouvernement actuel, je crois que c'est un gouvernement qui était prêt pour des politiques économiques, mais qui n'était pas prêt pour répondre à des questions d'ordre public ou de sécurité publique, qu'il s'agisse de celles de manifestations, qu'il s'agisse de celles de quartiers populaires, et que par conséquent, dépourvus de politique, ils se sont laissés entraîner par les demandes des forces de l'ordre ou de leurs représentants, et ce qui a donné ce virage autoritaire particulier qu'on n'attendait pas et qui s'est manifesté au cours des dernières années. Alors, comme vous l'avez remarqué, un virage tout à fait singulier à cet égard a été la sortie de l'état d'urgence que le président de la République a proclamé ou fait voter par l'Assemblée et qui a été accompagnée de mesures qui étaient celles de l'état d'urgence et qui ont été incorporées à la loi ordinaire. Et donc on a une situation dans laquelle, comme le disait le philosophe Walter Benjamin, l'exception est devenue la règle. Et là, il y a quelque chose qui est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, inquiétant certainement pas pour la majorité des gens qui n'auront pas de problème avec cette exception devenue la règle, avec ces mesures de l'état d'urgence qui sont incorporées dans la loi ordinaire, mais qui évidemment vont viser plus particulièrement les populations les plus marginales, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est là quelque chose qui est très inquiétant parce que au fond, on divise au sein de la société française, on divise entre ceux qui pourront continuer à vivre comme avant et ceux qui vont être tout particulièrement victimes pour des raisons qui peuvent être politiques, religieuses, de volonté de manifester ou des déviances ordinaires, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui vont être les victimes, mais des victimes presque invisibles parce que pour la majorité, il n'y a pas eu de changement. Et c'est ça qui est, je crois, une des choses les plus inquiétantes et les plus troublantes des temps actuels.
Mais d'ailleurs, Didier Fassin, en même temps que la sortie chez Delcourt de la Force de l'Ordre, il y a deux petits livres, la réédition en point de votre essai sur punir une passion contemporaine qui concerne les prisons, et votre leçon inaugurale au Collège de France qui a été éditée chez Fayard et qui s'appelle « De l'inégalité des vies ». Est-ce qu'on peut justement relier ce durcissement de la politique répressive des différents pouvoirs en place en France au creusement des inégalités? Est-ce que c'est justement, en 19e siècle, on disait la peur des classes laborieuses, classes dangereuses. Est-ce que c'est, au fond, la seule réponse que le politique peut donner aux gens qui ne supportent plus la pauvreté, la relégation, l'absence de travail? Est-ce qu'au fond, comme disait Jospin, on a tout essayé, puisqu'on a tout essayé, il ne reste plus que la force?
Alors, il y a un phénomène objectif que vous venez de mentionner et que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est effectivement le creusement des inégalités. Là, on a des données qui sont tout à fait indiscutables, qui ne concernent pas que la France. C'est un phénomène qui est assez général dans la plupart des pays occidentaux et au-delà. Donc on a un creusement des inégalités. Par rapport à cette situation, il y a deux réponses possibles, celle d'un État social et celle d'un État pénal. L'État social, on voit que même si en France nous restons relativement bien protégés, cet état social recule sur de nombreux aspects. Et donc, la réponse à ce moment-là se déplace vers l'état pénal, que ce soit à travers l'activité de la police que nous avons beaucoup mentionnée, ou que ce soit par la loi, le travail de la justice, une justice de plus en plus sévère. Et là aussi, on a des chiffres que je mentionne dans Punir, où on voit que pour les mêmes délits, on fait soit de la prison quand on n'en faisait pas avant, soit des peines plus longues que celles précédentes. Et donc, il y a un durcissement et qui se manifeste par l'augmentation de la population pénitentiaire. On a eu, en tout cas, juste avant la pandémie, on a eu une augmentation régulière sous les gouvernements de droite comme sous les gouvernements de gauche, une augmentation régulière de la population carcérale, ce qui est un phénomène qu'on trouve également dans d'autres pays. Il semble que la pandémie ait inversé cette tendance. Sera-t-elle durable? On peut l'espérer. Mais en tout cas, il y a là quelque chose qui est véritablement une forme de réponse où l'État social décline et où l'État pénal prend de plus en plus d'importance.
Eh bien, je vous remercie, Didier Fassin, d'être venu nous parler aujourd'hui de toutes ces questions qui pèsent beaucoup dans notre angoisse collective. Je rappelle que La Force de l'Ordre, le livre paru en 2011, 400 pages au seuil, est toujours disponible, mais le roman graphique vient de sortir chez Delcourt, et que ce petit livre, Punir, une passion contemporaine, suivi de À l'épreuve de la pandémie, vient de paraître dans la collection Point. Et votre leçon inaugurale au Collège de France de l'inégalité des vies, c'est chez Fayard. Merci à vous, Didier Fassin.
Merci.
Au revoir. Mais bien sûr, vous avez rendez-vous à 20h avec les informations qui vous seront présentées par Léo Teicher. Et ensuite, votre rendez-vous avec Une heure en série de Xavier Le Herpeur. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.